chronique de confinement. Le masque et la prune. Une capsule sonore qui donne la parole aux bénévoles de prune depuis chez eux. Récit, billet d'humeur, création. Retrouve le quotidien de celles et ceux pour qui le confinement se raconte.
Prune 92 FM, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau masque et la prune, version confinée, déconfinée. J'espère que tout le monde va bien ce soir, les allergies hein, sont toujours là, malheureusement, car il ne pleut plus dans ce pays qui est la Loire-Atlantique. Pourtant, on a eu ça tout le mois de janvier et février, mais là, non, il a décidé de ne plus pleuvoir. Bon, du coup, c'est sous ce beau soleil qu'on va faire le tour du monde des bonnes nouvelles de cette semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue, c'est les Good News. Allez, hop, prenons l'avion et atterrissons directement en Chine. Mao Yin, un enfant disparu dans la ville de Xi'an lorsqu'il avait 2 ans, a été retrouvé par ses parents après 32 ans de recherche. Enlevé puis rendu à d'autres parents chinois, il a finalement été identifié grâce à la technologie de reconnaissance faciale. En Allemagne, suite au confinement, une brasserie allemande a décidé de distribuer gratuitement son stock de bière invendue aux particuliers. En seulement quelques heures, c'est plus de 2600 litres qui ont été écoulés. Je vous vois tous derrière vos radios bavés, mais malheureusement l'Allemagne 1 point, la France 0. Aux États-Unis, à Atlanta, des dizaines de lavabos ont été installés dans la ville, permettant aux sans-abri de se laver facilement les mains et se protéger donc de la menace du Covid-19. L'initiative sert d'exemple car elle est en cours de développement dans une dizaine d'autres villes américaines. Et pour finir, c'est good news, le petit mot environnement concerne cette fois-ci tout le monde. Les mesures de confinement mises en place pour lutter contre le Covid-19 ont provoqué la plus grosse baisse d'émissions de CO2 depuis la Seconde Guerre mondiale. Du 1er janvier au 30 avril, les rejets de CO2 dans le monde ont diminué de 9%. Mon avis sur cette good news, c'est qu'on devrait faire au moins un mois par an de confinement, car ça permettrait tout simplement à la nature de faire une pause, voilà, de faire une pause et de se renouveler un tout petit peu. Voilà, les good news sont terminées, et du coup, comme c'est terminé, on va passer directement au sommaire de ce masque et la prune. Au programme de ce soir, dans un premier temps, nous écouterons Hortense, une étudiante qui a vécu un confinement différent car elle était au Japon. Elle témoignera au micro de Sophie. Dans un second temps, nous parlerons de l'association CMEA qui prône l'éducation populaire et l'inclusion sociale avec leur nouveau projet, l'espace démo. Et pour finir, Lucie nous parlera des stages étudiants avec sa chronique a priori estudiantin. Prune 92 FM, vous êtes bien dans le masque et la prune.
Des milliers de Français sont encore considérés bloqués à l'étranger selon le gouvernement à cause de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus. Cependant, certains n'ont pas souhaité être rapatriés par choix. C'est le cas d'Hortense, 21 ans, ressortissante nantaise à Kyoto depuis septembre.
Pourquoi étais-tu à l'étranger au moment de l'annonce du confinement en France ?
C'est dans le cadre de mes études. J'ai une troisième année qui doit se dérouler à l'étranger et j'avais choisi le Japon et plus particulièrement Kyoto.
Et est-ce que t'es arrivé de regretter de ne pas être rentrée ?
J'ai eu une très grande période de doute. Je dirais que j'ai eu une grosse semaine où je me posais beaucoup de questions, notamment par rapport au vol, si j'allais oui ou non pouvoir avoir un vol, quel que soit le moment de mon départ. Mais je ne regrette pas. Maintenant, je ne regrette pas du tout, surtout quand je vois la situation en France. Je me dis que je suis beaucoup mieux à Kyoto.
Pourquoi ça se passe comment à Kyoto ?
Le Japon est... Et dans l'inter, enfin, ne peut pas utiliser l'armée ou les forces militaires pour obliger les gens à rester chez eux. Les Japonais aiment vraiment pas l'armée ou la police ou autre. C'est vraiment pas quelque chose qu'ils aiment utiliser. Donc du coup, ils nous interdisent rien. C'est toujours dans s'il vous plaît, faites ceci. On vous conseille de faire cela, mais il y a pas d'interdiction. Il y a pas de fine, d'amende, voilà, c'est beaucoup plus chill.
Et donc finalement, c'est beaucoup plus agréable d'être à Kyoto que d'être en France. T'as profité de cette période pour faire quoi ?
Alors, À Kyoto, il y a une rivière qui traverse la ville, et donc du coup, j'ai passé la plupart de mon temps au bord de la rivière, bouquiner, me promener, ce genre de choses. Et la plupart des Japonais font ça également, les familles, les gens qui s'entraînent à un instrument de musique ou ce genre de choses, on se retrouve tous à la rivière.
Mais justement, cette possibilité de mouvement, est-ce que ça te paraît pas comme de l'inconscience un peu pendant cette période de pandémie ?
Si, clairement. Mais c'est vrai que quand on sait qu'on a la possibilité de le faire, en respectant les gestes barrières, c'est vrai qu'on a tendance à quand même avoir besoin de sortir un peu, surtout quand on vit seul dans un 20 mètres carrés. Au bout d'un moment, il y a besoin d'avoir de l'air frais. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça que même si c'est un peu inconscient, on le fait quand même.
Et ça t'est déjà arrivé d'avoir peur, d'être inquiète, par exemple, de tomber malade dans un autre pays que la France, au Japon, du coup ?
Dans un autre pays, enfin non, c'est pas tant le fait de tomber malade dans un autre pays qui me pose problème, c'est plus là, je sais que si je tombe malade ou que ce soit, en fait les services de santé sont débordés et donc du coup je pourrais pas avoir le meilleur traitement au monde, mais que ce soit en France ou au Japon, non, ça me pose pas trop de problème.
Et qu'en pensaient tes parents quand tu leur annonçais que tu voulais pas rentrer?
Mes parents avaient surtout peur que je me trouve toute seule, confinée, sans pouvoir voir mes amis et devoir être isolée pendant 3 mois. Il s'avère que j'essaye d'être assez autonome et de rester relativement chez moi, donc je suis un peu seule, mais je fais des zooms, j'ai mes cours, et puis je sors plusieurs fois par semaine pour quand même voir des gens, donc c'était la seule crainte qu'ils avaient.
Les autres personnes, les autres étudiants qui étaient au Japon, donc comme toi, la plupart sont restés ou ils sont rentrés chez eux ?
Non, je dirais qu'en fait, la plupart des gens n'étaient là qu'un semestre, donc en fait, ils sont rentrés en février, et en fait, c'est juste la vague de nouveaux étudiants qui n'est jamais arrivée. Ceux qui étaient censés arriver en début avril, en fait, ils sont jamais venus.
Et du coup, l'ambiance étudiante, pour l'étudiante étranger, du coup, ça a changé un peu tes habitudes de sortie, etc. Elles ont quand même été perturbées.
Bah, énormément, parce que la plupart des bars sont fermés, tout ce qui est boîte de nuit, tout ça, c'est fermé. Donc, en fait, pour faire des activités extérieures, on peut pas vraiment. Donc, en fait, la seule possibilité, c'est de se retrouver dans un parc ou autre. Donc, oui, clairement, ça a changé les habitudes.
Comment ça se passe au Japon par rapport aux gestes barrières ? Est-ce que le port du masque, c'est quelque chose d'hyper habituel, comme on peut le voir en Chine, par exemple, ou c'est nouveau aussi pour eux ?
Non, c'était ça bien avant. J'ai retrouvé une photo en septembre que j'avais envoyée à mes parents où j'étais enrhumée, donc j'avais un masque, parce que ce sont les gestes barrières qu'ils font au quotidien. Et je leur avais envoyé ça en mode « Oh là là, regardez, c'est la première fois que j'utilise un masque. » Et en fait, maintenant, c'est partout. Mais c'est vrai que ça m'a fait bizarre de revoir cette photo qui n'a plus aucun sens aujourd'hui.
Et tu penses rentrer quand ?
Je rentre en août. Mon avion est toujours confirmé. Après, à savoir si je vais pas avoir des turbulences à l'arrivée, je pense que sur Paris ça sera un peu plus compliqué que prévu, mais normalement j'espère que août ça ira.
et la prune. CEMEA prend place au sein de l'association CEMEA, Pays de la Loire, qui porte l'éducation populaire et l'inclusion sociale au cœur de ses actions. Le projet CEMEA est un espace convivial qui permet la rencontre et l'échange pour des jeunes exilés de Nantes et de ses alentours. C'est un lieu pour se reposer, avoir accès à Internet et faire des activités culturelles, assurant l'inclusion sociale pour les jeunes exilés en favorisant les liens avec les associations et les structures partenaires. Le Covid-19 et le confinement ont chamboulé les activités des associations qui ont vu leur action réduite. En ce qui concerne les mineurs étrangers, on parle d'un renforcement de l'isolement et de la précarité. Nous avons rencontré deux membres de l'espace TEMO afin de savoir quelle était la situation des jeunes exilés sur Nantes pendant le confinement et comment ils se sont réorganisés pendant cette période.
Bien, moi c'est Ali, je suis au CMEA en formation DEGEX. Quand je suis pas en formation, je fais mon alternance sur le champ inter des CMEA et du coup j'ai des missions sur TAMO. J'étais aussi sur TAMO l'année dernière quand j'étais en stage de fin d'études. Et moi je suis Elsa et je coordonne l'accueil de jour aux jeunes exilés TAMO.
Donc on va parler de vos activités pendant le confinement. Comment vous avez assuré la pérennité de votre aide, sachant que les déplacements et les contacts étaient limités au strict minimum et que vous êtes un espace d'accueil?
Alors, la première semaine, ça a été un peu compliqué, parce que forcément, pour tout le monde, il fallait aussi s'assurer que nous, l'équipe, soyons en sécurité matérielle et affective, parce que mine de rien, tout le monde était coincé chez eux. Aussi, il a fallu qu'on réinvente déjà nos modes de communication dans l'équipe, des outils de partage, puisqu'on pouvait voir physiquement sur les lieux. Et donc, très vite, on a mis en place un soutien psychologique avec des appels à tous les jeunes dont on avait les contacts.
Justement, ce qui concerne, je me permets de rebondir du coup sur le soutien psychologique. Est-ce que vous avez trouvé qu'avec la situation, il y avait plus besoin de cette aide, justement, de soutien psychologique pour les jeunes exilés?
Les situations, elles étaient différentes, en fait, en fonction des jeunes qu'on pouvait accueillir avant et qui fréquentaient TAMO. Il y avait, donc, nous, on les a contactés via le groupe WhatsApp. Et du coup, on les a un peu contactés un peu plus qu'avant. On a essayé de prendre des nouvelles chaque semaine. Et il y en a pour certains, ils nous ont fait savoir que c'était, ça leur a paru un peu étrange, peut-être c'était un peu trop et voilà. Et il y en a d'autres pour lesquels on a, pour qui on a senti que c'était justement, pas forcément par téléphone, mais qu'en fait le TAMO, les personnes qui travaillent à TAMO, qui sont présentes sur TAMO, avaient un rôle important quand même dans leur vie et qui, du coup, montraient le besoin d'avoir toujours du lien. Donc, en fait, ça dépendait un peu des personnes et aussi des situations dans lesquelles les jeunes peuvent vivre et les lieux dans lesquels ils peuvent habiter ou dormir. Par exemple, s'ils vivent en squat, au début, on était hyper inquiets. Et par exemple, sur la santé psychologique, en squat, vu qu'ils étaient souvent nombreux, c'était mieux qu'une personne qui pouvait être logée à l'hôtel seule. Sur le besoin de nourriture, de fait, c'était très compliqué pour tout le monde parce que toutes les assos se sont mis à être au ralenti. Et donc, l'aide alimentaire, c'était compliqué. Au niveau du soutien psychologique, par exemple, sur des personnes qui étaient en squat et où ils étaient 5, 6 à vivre au même endroit, c'était beaucoup plus simple pour eux que d'autres qui pouvaient être tout seuls dans un hôtel où l'hôtel, t'as absolument rien et pas le droit de sortir, quoi. On a eu aussi des personnes qui hébergeaient, mais qui, en plein milieu du confinement, ont mis les gens dehors, en disant, moi, mon contrat d'hébergement, il se termine au 15 avril, en plein milieu du confinement, et donc, je te mets dehors. Voilà, et on a aussi une personne, par exemple, qui doit partir à 7h le matin et rentrer qu'à 9h le soir. Donc, toute la journée, dehors.
Donc, vous avez parlé de la précarité alimentaire. Justement, vous avez mis en place une épicerie solidaire. Comment vous y êtes parvenu? Est-ce que cela a suffi à couvrir le besoin? Est-ce que vous avez aussi ressenti plus de demandes pendant le confinement?
Oui, clairement, on a concentré beaucoup de nos forces sur cette question-là. C'est-à-dire, par exemple, avant, on avait une commande, on recevait des dons de la banque alimentaire une fois par mois, et là on a doublé les commandes, donc on reçoit deux fois par mois, environ une tonne. Et puis, on a aussi fait appel aux dons de particuliers, d'associations, de militants des CMEA. Donc, ça a aussi permis d'augmenter notre stock. Mais clairement, oui, on a vu une augmentation de l'affluence de personnes qui avaient besoin de nourriture. Et on le voit toujours aujourd'hui, en fait.
Sauf qu'aujourd'hui, le confinement, il est fini et qu'on ne peut pas reprendre l'accueil comme aujourd'hui et que le besoin en nourriture est hyper grand. On a réinventé notre métier, comment on continue la solidarité et en même temps, on permet aux jeunes, mais c'est parce que c'est eux qui nous l'ont demandé, hein, d'être bénévoles dans cette épicerie pour la faire tourner. Plus que bénévoles d'ailleurs, ils sont complètement acteurs et actrices du fonctionnement. C'est pour ça qu'on leur laisse la main.
Pour cette organisation avec les jeunes, vous êtes restés en contact, comment vous avez pu assurer ce suivi un peu
Pendant
le confinement, oui.
Et ben, du coup, on a toujours utilisé le groupe WhatsApp qui nous permettait, avant le confinement, de donner des nouvelles et d'informer sur ce qui se passe à Tamo, etc. Donc, on a gardé ce groupe WhatsApp-là. On l'a enrichi avec de nouveaux numéros quand il y avait des nouveaux jeunes qui venaient. C'est plutôt des messages collectifs via ce groupe-là. Et puis après, on a appelé individuellement les jeunes, comme on disait tout à l'heure, surtout au début. Après, moins fréquemment, quoi, mais au début, on les appelait très régulièrement, chacun d'entre eux. Ouais. Et puis, voilà, le lien, il se faisait aussi pendant l'épicerie. Quoi. L'épicerie, il y a la nécessité de se nourrir, mais ça peut aussi être un prétexte à l'échange, à la discussion et à prendre des nouvelles et à parler et se sentir un peu mieux, quoi.
On parle aussi de la solidarité pendant le confinement. Est-ce que vous avez trouvé qu'il y a eu un renforcement de cette solidarité? Est-ce que vous avez eu, par exemple, des personnes qui sont venues aussi renforcer cette aide, des assos, des particuliers
Oui, carrément. Un peu de toutes les parties. On a été contactés par des gens qui pouvaient déjà un peu connaître le projet, qui n'avaient pas forcément encore mis les pieds, par des gens qui ne connaissaient pas forcément le projet. On avait posté, via notre appel à action, des gens à l'interne des CMEA, mais aussi à l'externe, des assos, notamment quand on avait besoin de produits d'hygiène, notamment on a eu le soutien de Emma Douche, qui avait fait une collecte avec d'autres associations de produits. On a des boulangeries aussi, qui nous ont permis d'avoir du pain.
Je sais pas, des particuliers,
ouais, voilà, des militantes. Et puis des gens qui ont voulu agir là-dessus en faisant des dons, mais aussi en tenant des permanences sur l'épicerie. Donc différentes formes de coups de main, quoi. Et de militantisme, parce que quand même, de sortir du confinement, de prendre un risque pour aller faire de la solidarité, c'est quand même un sacré acte politique, parce qu'on prend des risques et on se met aussi en risque. Et nous, notre partenaire le plus important là sur l'aide alimentaire depuis le début, c'est la Banque Alimentaire. Et en fait, on a hyper eu peur pendant un temps parce que ils avaient fermé. Parce que la Banque Alimentaire, c'est beaucoup de bénévoles et beaucoup de bénévoles retraités. Et du coup, les personnes plus âgées sont plus vulnérables. Heureusement, il y a toute une organisation qui s'est mise en place à la Banque Alimentaire pour que ce ne soit pas les personnes les plus vulnérables qui reprennent l'activité. Et du coup, ils ont trouvé d'autres bénévoles, ce qui nous a permis de faire aussi cette épicerie solidaire, hein, en plus de tous les dons dont Alice vient de parler. Et en fait, là où ça nous a le plus ému, c'est quand on est revenu à la Banque Alimentaire et qu'on a vu les personnes qui étaient déjà les plus militantes à la Banque Alimentaire, même si elles avaient 75 ans, elles étaient encore là.
En ce qui concerne l'approvisionnement en masques, est-ce que vous en disposez assez pour pouvoir assurer votre distribution d'aide alimentaire? Le port du masque est obligatoire dans les transports en commun. Est-ce que les jeunes que vous accompagnez peuvent s'en procurer?
Pour les masques, ça a été la même chose. On a eu des masques qui nous ont été offerts par Bricolothèque, une asso qui est pas loin, là, sur le Clos Taureau. Des particuliers aussi qui nous en ont donné et d'autres qui sont encore au travail dessus. Donc pour l'instant, on a un petit stock et on commence à en distribuer pour l'instant un par personne, puisqu'on avance un peu à tâtons en fait. Et effectivement, il y a la question du masque, mais aussi qui est obligatoire pour les transports. Enfin, la question qu'on s'était posée, c'était aussi l'entretien, le nettoyer, puisque tous les jeunes qu'on connaît n'ont pas forcément de machine. Donc, on a aussi réfléchi à ça. Mais pour l'instant, voilà, on espère pouvoir en donner au moins un à chacun pour que ceux qui viennent en transport en aient. Et on a une centaine de masques, et tu vois, rien qu'entre aujourd'hui et hier, on en a déjà donné une vingtaine, quoi.
Ouais, ok.
Ouais. Et puis on a, sinon pour les autres mesures, on a aussi, quand on accueille les jeunes, on les accueille un par un dans l'espace. Nous aussi, on a des masques pour nous, l'équipe, On a du gel hydroalcoolique que maintenant on peut aussi distribuer aux jeunes. On en a reçu un peu. On a des points d'eau pour se laver les mains.
Donc l'état d'urgence sanitaire est prévu jusqu'au 10 juillet. Il y a l'interdiction de se rassembler à plus de 10 personnes. Est-ce que vous comptez reprendre vos activités? Comment ça se passe même là maintenant après le confinement
Moi, j'ai pas du tout l'impression d'avoir arrêté de travailler.
Oui.
Mon travail et mon activité a changé de fait, mais j'ai pas l'impression d'avoir arrêté. Et en fait, on continue tout le temps. Effectivement, nos modes d'action sont différents. On a dû s'adapter et que des fois, il y a une inertie là de se dire. Puis toi, nous aussi, on a des peurs. Enfin, puis on a des questions de vie privée, d'organisation, tout ça, machin. Qu'est-ce que ça joue sur notre avenir? Dans la liste, elle disait à l'étagère, qu'est-ce que ça fait que de passer un diplôme et sur ton lieu de stage où il n'y a plus de public, tu vois? Enfin, il y a des trucs, c'est compliqué, par exemple. On n'a jamais lâché l'affaire, on s'est toujours dit comment on réinvente, comment on fait, comment on est là pour eux. Et si le 10 juillet, il y a encore autre chose, et on sera encore là, quoi. Alors, il y aura peut-être une fermeture administrative en août, parce qu'à un moment, on n'est pas assez nombreux, parce qu'on n'a pas non plus des moyens de dingue, faut pas croire, on fait des choses, mais on bosse tous plus que le temps qui nous en est imparti, parce que nous aussi on est des militants, en plus d'être des salariés ou des stagiaires, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, là on va aller jouer dehors demain, on va proposer une activité, mais dehors. Donc en fait, dès aujourd'hui, on continue d'être présent, mais toujours en ayant des actions pour les jeunes, quoi. On a préféré ne pas réouvrir l'accueil, même si peut-être qu'on aurait pu accueillir moins de 10 personnes, mais nous on n'est pas très à l'aise avec le fait d'accueillir un tel et pas une telle. Du coup, ce qu'on a plutôt proposé, c'était de faire des activités en extérieur pour continuer de garder le lien et d'avoir aussi autre chose en plus de l'épicerie. Et on verra aussi si ça a de l'écho chez les jeunes, quoi. Est-ce qu'ils sont aussi toujours un peu en crainte de se regrouper? On verra, on va à tâtons, quoi.
Le masque et la prune.
Chères chroniqueuses, chroniqueurs, dévoués stagiaires, avant toute chose, il faut que vous sachiez que le mot « stagiaire » est un épicène. Cela veut dire qu'on peut l'utiliser autant au masculin qu'au féminin. Malin, non ? Vous dormirez moins bête ce soir, c'est moi qui vous le dis. Bon, entrons dans le vif du sujet. Le stage, 2 mois, une seule bataille pour des milliers d'étudiants chaque année à l'approche de février-mars. Un combat qui s'enchaîne année après année. Anecdotes à la clé, toutes plus loufoques les unes que les autres. À la rentrée, vous le savez pourtant, vous êtes conscient de cette obligation stagiaire qui est inévitablement présente. Vous avez en tête qu'il serait nécessaire de vous mettre de suite au travail pour trouver le stage fait pour vous. Celui qui décuplera vos compétences, celui qui vous aidera pour la suite de votre aventure. Et pourtant, après quelques vagues recherches, vous laissez tomber si rapidement, trop occupé à festoyer votre retour à la vie étudiante et ses élans de folie. Se prolonge alors l'idée que ce stage ne soit qu'un vague rêve égaré entre les cours du mardi de 17h à 18h. Et vous songez à votre improbable don d'être famous à travers votre domaine de compétences. Et vous attendez, rêveur, près du téléphone qu'une entreprise vous appelle un beau jour et vous dise « Je vous veux dans mon équipe. » Que nenni ! Vous tombez alors de haut lorsque vous recevez votre 23e mail de refus stipulant « Vous avez les compétences adéquates, mais nous sommes dans l'impossibilité de vous recevoir en tant que stagiaire. » Enfin, vous recevez un mail déjà, c'est plutôt pas mal. Alors après, voilà, ne nous acharnons pas non plus sur les entreprises. Elles doivent bien recevoir une dizaine de CV, tous plus riches les uns que les autres par heure. Oui, par heure. Puis, on se retrouve souvent à élargir notre champ de recherche, à brasser toutes les agences à plus de 150 km dans l'espoir même de caler un entretien, rien que pour nous donner du baume au cœur. Et pourtant, il y a toujours cette Léa, cette nana trop parfaite, qui, elle, a trouvé un stage dès le début dans l'agence qu'on voulait, qu'on jalouse secrètement et où l'on espère un jour un retour de karma. Ah, l'être humain. Puis, un jour, vient le jour miracle. Bam ! Lorsqu'on est chez soi à jouer aux fléchettes sur un poster de Britney Spears, au moment fatidique où l'on sent que l'on a en nous la fléchette qui va arriver à l'endroit fatidique, Vibreur annonçant un coup de téléphone, bam, on nous rappelle suite à notre mail supplicatif. Alors, oui. Ce mot n'existe pas. Et alors, hein, vous avez compris l'idée. Bref, là, on se dit qu'on a eu quand même chaud, 10 jours après que nos autres camarades de classe aient déjà commencé leur propre stage. On est alors gonflés à bloc, motivés à se démarquer, à montrer de quoi on est capable, à devenir ce qui est écrit sur notre diplôme. On s'entame alors une course d'obstacles où l'on devra éviter les nombreuses vannes clichés dont on pourrait faire l'objet. Un café allongé sans sucre et que ça saute. Ou bien c'est « Maurice, tu voudrais bien imprimer ces 230 invitations pour demain midi, ta pente ?» Oui. Hélas, on enchaînera sur un sprint sur des réflexions mentales intenses. Est-ce que je vais vraiment ressembler à ce type de la com plus tard? Ou alors, comment est-ce que c'est possible de faire ce métier pendant 30 ans Oh, j'oublierai presque le « Les frites de la cantine m'ont ravi, je serais presque apte à bosser ici rien que pour ça !» Finalement, oui, travailler à 3,75€ de l'heure au maximum, quand c'est plausible, quand tu fais partie de la « haute », entre guillemets, les frites te semblent finalement un refuge si confortable. Alors, vous me direz, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Certes, il y a plein d'engouement, plein de maîtres de stage ultra avenants et prêts à te faire progresser et à t'accompagner. Il y a aussi des stagiaires peut-être pas toujours conscients de l'importance de cette période. Ah, cette belle jeunesse. Finalement, peut-être le plus dur, c'est quand tu as terminé toutes ces années d'études, que ton dernier stage de 6 mois se termine, qu'ils ne peuvent pas te reprendre, faute de moyens. Et que tu te retrouves là, fin juillet, un diplôme en poche, des ambitions plein la tête et la tétanie de te confronter maintenant au monde du travail. Welcome, ça ne sera pas une partie de plaisir, mais je suis sûre que tu vas t'en sortir. Amour, joie et courage à vous, étudiants, étudiantes, qui sont toujours prêts à se surpasser pour donner le meilleur d'eux-mêmes. N'oubliez pas qu'à Prune, on vous kiffe.
Nous arrivons au terme de ce masque à Prune. Merci de nous avoir suivis, c'était un réel plaisir. Merci à nos invités de ce soir. Merci à Team du Mardi avec Sophie et Yelena à l'interview et Lucie à la chronique. Merci à vous de nous écouter quotidiennement. Vous pouvez écouter ou réécouter l'émission en podcast sur le site www.prune.net. Un nouveau Masque à la Prune vous attend demain à 18h et s'intéressera au sujet de société. Sur ce, je vous laisse, vous embrasse et je vous souhaite une excellente soirée. C'était Fabien Animation, salut!
Le Masque et la Prune. C'est une capsule sonore à retrouver sur Prune chaque jour à 18h. Tant qu'il y aura des masques.